SBS Radio.
Dans l'actualité de ce mardi 5 juin 2018, le président américain Donald Trump et le président de la Corée du Nord Kim Jong-un se rencontreront bien la semaine prochaine à Singapour. En Jordanie, le premier ministre vient d'être remplacé après des mois de manifestations dans les rues de la capitale. En Australie, l'ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce a confirmé sa présence lors de la prochaine élection fédérale. Et puis en France, la ministre de la Culture a présenté hier la réforme de l'audiovisuel voulue par le gouvernement. La Maison-Blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrera le leader nord-coréen Kim Jong-un la semaine prochaine pour le sommet tant attendu entre donc la Corée du Nord et les États-Unis. Les deux dirigeants se rencontreront le 12 juin à Singapour. C'est Sarah Huckabee Sanders, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, qui a révélé l'information. On l'écoute.
I can tell you the president has been receiving daily briefings on North Korea from his national security team. And I can also tell you the schedule for tentatively for that first meeting will be on June 12th at 9 a.m. Singapore time and take place at June 11th, 9 p.m. East Coast time.
D'autre part, l'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies s'est déclaré prête à vérifier rapidement le programme nucléaire de la Corée du Nord si l'État isolationniste parvient à un accord avec les États-Unis au sommet proposé entre les deux pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, appelle la Corée du Nord à se conformer pleinement à ses obligations internationales. On écoute Yukiya Amano, directeur de l'organisation.
We will be ready to act promptly and play an essential role in verifying North Korea's nuclear program if a political agreement is reached among countries concerned, subject to authorization by our Board of Governors. I again call upon North Korea to comply fully with its obligations and to cooperate promptly with the agency.
En Jordanie, maintenant, une journée de grève générale et trois nuits d'intenses manifestations ont suffi à emporter le gouvernement de Hani Mulki. En poste depuis mai 2016, le Premier ministre sortant a été remplacé à son poste par le précédent ministre de l'Éducation, Omar Razaz. Le roi Abdullah de Jordanie a donc remplacé hier lundi donc son Premier ministre dans une tentative de désamorcer les plus grandes manifestations face aux réformes soutenues par le Fonds monétaire international qui ont frappé les plus pauvres du pays. Les plans du gouvernement pour lever les taxes ont amené des milliers de personnes dans les rues de la capitale à Amman et d'autres parties de la Jordanie depuis la semaine dernière. Les manifestations ont ébranlé le pays, allié des États-Unis, qui est resté stable pendant des années de troubles régionaux. Le roi Abdullah a nommé M. Omar Al-Razaz, un ancien économiste de la Banque mondiale et ancien ministre de l'Éducation, pour former le nouveau gouvernement, après avoir accepté la démission de Hani Mulki, l'ancien Premier ministre. Le changement est positif, selon ce résident jordanien Abu Ala. On écoute.
The resignation is a first step to reduce the tension that exists in the country. The second step, which is the main step, is to withdraw the decision by King Abdullah from the parliament and cancel it. Other than that, things will not get calm.
Le Premier ministre israélien est en visite en Europe. Avant Paris et Londres, Benjamin Netanyahou était ce lundi à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande. Sur la table, un seul dossier, l'Iran. Il a d'ailleurs mis en garde Angela Merkel contre un afflux de réfugiés syriens si jamais les Européens laissent l'influence iranienne grandir dans la région. Le but de cette tournée européenne de Benjamin Netanyahou est donc clair, c'est d'appeler à mettre la pression sur Téhéran et d'imiter les États-Unis en déchirant à leur tour l'accord de 2015. Et face aux menaces de sanctions américaines, de nombreuses entreprises étrangères font leurs valises. Aujourd'hui, c'est au tour du constructeur automobile français PSA de préparer son retrait d'Iran. C'est pourtant le premier marché étranger en volume pour l'entreprise. Alors, quel sera l'impact de cette décision en Iran? Réponse avec le correspondant de RFI à Téhéran, Sievoj Ghazi.
Les responsables iraniens n'ont pas encore réagi à la décision du groupe PSA de se retirer du marché iranien, mais il s'agit indéniablement d'un grand choc pour Téhéran, En effet, après l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances en 2015, le groupe PSA est revenu en Iran pour prendre une place de leader sur le marché automobile du pays. Le groupe PSA domine en effet largement le marché iranien avec 450 000 voitures vendues dans le pays l'année dernière, sur un tiers des véhicules construits dans le pays. Surtout, cette décision intervient après celle du groupe pétrolier français Total, qui a laissé entendre qu'il allait abandonner un important contrat de 5 milliards de dollars signé en 2017. La décision de PSA intervient alors que les pays européens tentent d'assurer l'Iran sur leur volonté de sauvegarder l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis il y a presque un mois, ce qui risque de renforcer la position des durs au sein du pouvoir iranien qui affirme que Téhéran ne doit pas faire confiance aux Européens. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Au Guatemala, encore plus de corps de victimes de l'éruption du volcan Fuego ont été retrouvés par les sauveteurs. Des responsables de ce pays d'Amérique centrale ont déclaré que le nombre de morts a augmenté au moins 62 hier lundi, donc, tandis que 10 personnes ont été retrouvées vivantes, parfois enfouies dans les cendres et les coulées de boue. Le volcan à l'ouest de la ville de Guatemala est entré en éruption dimanche dernier, envoyant de gigantesques nuages de cendres dans les airs, bloquant les routes et incendiant les maisons. Les travailleurs ont dit avoir trouvé des corps si épais recouverts de cendres qu'ils semblaient être comme des statues. On écoute cette survivante, Eugenia Garcia Uspatan, qui dit qu'elle a perdu sa famille dans les coulées de lave du volcan.
I left home and walked along the valley to go to the shops when I suddenly realized the lava was coming down and seeping through the plots of land, the highway and down next to the water tank. It came down into the alley and up. It came right up to us. We managed to escape through the San Miguel estate. I only managed to find my two daughters alive. My grandson and my son are missing, together with my entire family.
En Australie, maintenant, Barnaby Joyce aurait confirmé son siège à la prochaine élection fédérale. Il y avait eu des doutes sur l'avenir de l'ancien vice-premier ministre et les leaders des Nationals depuis qu'il a accepté une interview payante sur sa liaison avec son ancienne collaboratrice Vicky Campion et leur bébé. Mais la ABC dit qu'il a confirmé qu'il se présentera à la réélection. Le journal The Australian a signalé que certains membres des Nationals poussent pour un autre ancien leader et vice-premier ministre des Nationals, John Anderson, pour remplacer M. Joyce au siège. MP Ken O'Dowd des Nationals du Queensland avait auparavant dit à la ABC qu'il pressait M. Joyce de prendre une décision au profit des électeurs de la Nouvelle-Angleterre. On l'écoute.
I think it's very important, you know, for the people of Tamworth and New England that they know they've got someone there who is going to be in there fighting for them, and I think Barnaby would understand that and he would make that call. So over to you, Barnaby. And best of luck with whatever you decide.
Pendant ce temps, le parti travailliste a encore progressé devant le gouvernement Turnbull, mais dans le dernier sondage Guardian Essential, suite à la reprise de la controverse Barnaby Joyce, le sondage montre que les travaillistes devancent la coalition de 54% à 46%. Amnesty International demande au gouvernement australien d'être plus transparent sur son rôle dans les frappes aériennes de la coalition de l'année dernière à Raqqa, capitale de la Syrie. L'organisation humanitaire a publié un rapport sur les frappes après avoir mené des enquêtes sur le terrain dans la ville aujourd'hui totalement détruite. Le rapport indique que dans le processus de libération de la ville de Daesh, la coalition dirigée par les États-Unis a tué et blessé des milliers de civils dans ce qu'Amnesty a qualifié d'attaque disproportionnée et indiscriminée. Du 6 juin au 12 octobre de l'année 2017, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé l'attaque au nom d'une coalition de 70 pays, dont l'Australie. Donatella Rovera, conseillère principale en matière de réponse à la crise d'Amnesty International, a déclaré à SBS que le gouvernement fédéral devait faire preuve de transparence quant à son rôle.
Other countries who are members of the coalition are not devoid of responsibility because that military campaign was carried out in their name and they should do all that is in their power to ensure that the disastrous outcome for the civilian population is investigated and that justice is done.
En France, ce n'est pas vraiment la révolution annoncée, mais certainement une recomposition en profondeur de l'audiovisuel public. Les grandes lignes de la réforme voulue par le gouvernement ont été dévoilées ce lundi, hier donc par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. On retiendra notamment la fin annoncée de la chaîne France 4, qui bascule sur Internet. France O pourrait également être menacée à terme, et la priorité sera donnée au numérique pour répondre à un défi majeur, conquérir le jeune public. On écoute Sarah Tisser pour RFI.
S'agissait-il de ménager les 17 000 salariés de l'audiovisuel public, inquiets et déjà ébranlés par les propos rapportés du président Macron il y a quelques mois, qualifiant le secteur de honte? En tout cas, la ministre n'a pas dit un mot des économies à venir, 200 à 500 millions d'euros d'ici 2022, selon des informations parues dans la presse. Pas un mot non plus des nécessaires réorganisations au sein des 6 entreprises appelées à investir massivement dans le numérique. Seule Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a prévenu.
Aucune entreprise ne se transforme sans investir sur le long terme. Nous le ferons par réallocation interne. Car une chose est claire et traverse toute l'Europe. La collectivité a 1000 priorités à financer et n'a plus les moyens d'accompagner les dynamiques budgétaires de l'audiovisuel public.
Des plateformes numériques communes aux 6 sociétés sont appelées à voir le jour sur le décryptage des fake news, sur l'information culturelle ou des programmes éducatifs. La chaîne France 4 pour la jeunesse, elle, ne sera plus diffusée qu'en numérique. Pour le reste, l'avenir de France O, la chaîne des Outre-mer dans l'Hexagone, doit être remise à plat. Et France 3 devra renforcer ses programmes régionaux avec le réseau radio France Bleu. Mais on reste encore loin d'une BBC à la française, loin du Big Bang dans ce qu'a annoncé hier Françoise Nyssen.
À Paris, un squelette de dinosaure d'une espèce inconnue a jugé plus de 2 millions d'euros. Le lundi 4 juin 2018, à 18h, a lieu la vente aux enchères d'un squelette de dinosaure de 9 mètres de long. Âgé de 150 millions d'années, le fossile a été découvert dans le Wyoming, aux États-Unis. Depuis le 2 juin, il était exposé au premier étage de la Tour Eiffel. En sport maintenant, rapidement, en tennis, chez les femmes, la Roumaine Simona Halep et l'Allemande Angélique Kerber joueront une suite à leur demi-finale de l'Open d'Australie en quart de finale de Roland-Garros. Finaliste l'année dernière et en 2014 et classée numéro 1 au monde, Halep a souligné ses qualités en battant facilement la Belge Elise Mertens en 59 minutes, 6-2, 6-1. Puis l'Allemande Kerber a battu le dernier espoir français Caroline Garcia 6-2, 6-3 pour atteindre son premier quart de finale de la French Open depuis 2012. Et l'américaine Serena Williams s'est retirée du tournoi avec une possible déchirure musculaire pectorale qui a propulsé la russe Maria Sharapova dans les quarts de finale. Et puis chez les hommes, le croate Marin Cilic a résisté à un retour de l'italien Fabio Fognini pour atteindre les quarts de finale de l'Open de France, mais pour la deuxième année consécutive en 6-4, 6-1, 3-6, 6-7, 6-3 victoires. Cilic affrontera l'argentin Juan Martín Del Potro. Del Potro s'est qualifié pour les quarts de finale avec une victoire convaincante de 6-4, 6-4, 6-4 contre l'américain John Isner. Le champion à 10 reprises, Rafael Nadal, a envoyé un avertissement à ses rivaux en réalisant son 12e de quart de finale à Roland-Garros. Le numéro 1 mondial a fêté ses 32 ans avec une victoire de 6-3, 6-2, 7-6 au 4e tour contre l'allemand Maximilian Marterer. Un rapide coup d'œil de la météo de ce mardi 5 juin à Perth, de la pluie et peut-être de l'orage avec 20 degrés. Adélaïde 17 degrés et plutôt ensoleillé. Melbourne 16 degrés. À Hobart, il fait 13 degrés et c'est nuageux. Canberra 15 degrés et des nuages. Wollongong de la pluie avec 17 degrés. À Sydney, il fait 18 degrés et on s'attend à des averses. Pareil pour Newcastle, des averses et 17 degrés. Brisbane plutôt ensoleillé avec 22 degrés. À Cairns, 26 et du soleil, et enfin à Darwin, du soleil également, et 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 5 juin 2018. Le président américain Donald Trump et le président de la Corée du Nord Kim Jong-un se rencontreront bien la semaine prochaine à Singapour. En Jordanie, maintenant, le premier ministre vient d'être remplacé après des mois de manifestations dans les rues de la capitale. En Australie, l'ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce a confirmé sa présence lors de la prochaine élection fédérale. Et enfin, en France, la ministre de la Culture a présenté hier la réforme de l'audiovisuel voulue par le gouvernement.
sbs.com.au.